Alors, je vous présente Monsieur Goussens. La première question qui me vient à l'esprit, c'est bon sang, depuis ce matin, on m'a dit que ça se prononçait Goussens, Gossens, Gossens et Goussens.
Ouais, les quatre sont bonnes. Mes parents disent Gossens, ouais. Et en Belgique, on dit Gossens. D'accord. En Angleterre, ça va être Goussens, etc.
Bon, alors on va dire Gossens. On va dire comment?
Ouais, Gossens, pas mal.
Bon Gossens, ok. Ouais. Donc, Monsieur Gossens est né en 54 à Salon de Provence. Actuellement, il habite et travaille aux environs de Paris. Donc, Monsieur Gossens, d'abord, c'est un grand bédéiste. Donc, je vous rappelle la vie d'Albert Einstein, le fameux duo Georges et Louis, l'immortelle encyclopédie des bébés, bien sûr, la vie de Jésus-Christ et le sublime Passion qui vient de sortir et qui a en couverture un remake de Scarlett O'Hara dans Autant n'emporte le vent qui m'a fait hurler de rire à la FNAC. Et comme le monde est mal fait, il n'y en a pas en librairie, mais par contre, il y a tous les autres. Donc, la BD de Gossens, c'est un traitement entre le lyrique et le bouffon. Moi, je dis que, globalement, c'est une... Au niveau dessin, c'est vraiment ça. C'est une bouffonnerie lyrique, à moins que ce soit un lyrisme bouffon. Au niveau de la parole, pour moi, il y a une finesse desprogienne et aussi une politique devossienne. Je ne sais pas si vous voyez. Comme en témoigne, d'ailleurs, ce monologue qui est le célèbre monologue de la demi-femme qui est dans Passion et que je vous livre tel quel. Une femme, il faut la faire rire. Moi, déjà, j'arrive à les faire bâiller. Une femme, si tu la fais bâiller, hop, elle est à moitié dans son lit. Et si tu la fais rire, dit le dicton, elle est à moitié dans ton lit. Moi, mon lit ou le sien, je m'en fous, mais je veux les deux moitiés. Et en plus, si tu fais rire une femme, elle est à moitié dans ton lit, peut-être, mais une fois dans ton lit, si tu sors ton sexe, elle va te dire « Eh, moi, j'étais venue pour les blagues ». Tout le monde connaît, je crois, ce problème. Et il y a aussi, bien sûr, le célèbre et très radical à la maison. C'est ma femme qui porte la culotte et c'est moi qui mets les mains dedans. Donc, Gossens, c'est, bien sûr, le Grand Prix d'Angoulême en 97. En début de carrière, c'est un peu de pilote et surtout, à partir de 1977, c'est devenu un pilier de fluide glacial qui est lui-même un pilier de la BD française depuis 30 ans. Je ne sais pas quand il a commencé. Moi, j'ai commencé à l'acheter, je crois, en 82, 81. Enfin bref, j'avais 15 ans. Et je crois que je n'en ai jamais raté un numéro depuis, sauf là où je fais... C'est 81, 77.
C'est presque le début. Ouais, j'ai commencé en 77 à Fluide Glacial.
Ouais, ouais. Voilà, sauf là, ces derniers temps, puisque je boude depuis qu'ils ont viré Frémion et Léandri. Ça ne me va plus du tout. Mais ceci est une autre histoire. Donc, Monsieur Gossens est cité par des pointures taille 56, que sont Larsenet, Blutch ou Boulet, et surtout par Benoît Peulvorde, qui dit de lui, ouvrez les guillemets, que c'est carrément au-delà de l'admiration, tellement il idolâtre Gossens. Voilà, et on reconnaît bien le phrasé de Peulvorde, au-delà de son admiration, cette tendance amphigourique de l'homme qui abuse de la cocaïne. Mais Gossens, ce n'est pas du tout uniquement de la BD. C'est aussi un chercheur en informatique et notamment en intelligence artificielle, d'où la question « Vous dormez quand ?» que je vous poserai plus tard. Donc, Monsieur Gossens est enseignant à Paris 8. Il s'y est inscrit. Alors, Paris 8, c'est une université qui a son histoire, puisque en 1968, il y a tout un tas de jeunes gens chevelus qui ont dit « ça suffit, ces universités où il n'y a que des fils de bourges, on va créer une université pour le peuple ». Ils ont créé à Vincennes, dans d'anciens locaux de l'armée, une université effectivement pour le peuple, où sont venues immédiatement toutes les plus grosses pointures. Je ne sais pas, Foucault, Derrida et co. Et... Monsieur Gossens s'y est inscrit pour suivre les cours de BD de Moebius et Mézières. Et ensuite, cette université, quand il y a Alice Sonier-Céité qui a décidé que ça suffisait, cette bande de chevelus qui faisait n'importe quoi dans ce secteur très bankable qu'est Vincennes, et qui a déménagé la fac, on va dire manu militari, c'est-à-dire avec des gros engins de chantier à Saint-Denis. Et ça, d'ailleurs, ça n'a rien changé. Tout le monde a suivi à Saint-Denis. Ce qui fait que Paris 8 s'appelle Paris 8 Vincennes-Saint-Denis. Et qu'il y a beaucoup de gens qui disent « c'est bizarre, Vincennes, je n'aurais pas mis à Saint-Denis inversement ». Mais c'est l'histoire. Donc, M. Gossens est encore et toujours un chercheur émérite de cette université. Et notamment, vous faites des missions au Tokyo Institute of Paleontology. Moi, ça me fait rêver d'aller faire de la paléontologie à Tokyo. Donc, je vous poserai aussi des questions là-dessus.
Ah, ça, c'est faux. C'est une...
Ah bon ?
Oui, je ne sais pas ce que ça fout. C'est sur l'article Wikipédia.
Ah non, c'est pas vrai.
On va changer. Je suis allé à Tokyo quand même, mais pas au paléonto, je ne sais pas quoi.
Ah mince, alors c'est une blague, je suis très déçue. Voilà, et donc quand on a parlé ensemble des recherches de M. Gossens, c'est qu'on travaille ensemble. Moi, je suis une modeste contributrice de l'Université Paris 8, et donc je fais une bibliothèque numérique. Ça consiste à numériser des manuscrits, notamment des archives. Alors en général, quand on veut numériser les archives d'un enseignant-chercheur, on attend qu'il soit mort ou presque. J'ai trouvé ça très triste. Je me suis dit, je vais aller voir les enseignants-chercheurs en disant, vous ne voulez pas que je numérise vos archives de votre vivant. Donc là, j'ai rencontré M. Gossens, je lui ai dit, vous ne voulez pas me confier vos archives ou une petite partie pour que je les numérise? Et là, il m'a dit, moi, je suis comme un marin sur un bateau. J'ai embarqué un jour sur une mer de questions sur mon bateau. Si un jour j'aborde une île, je vous promets, je vous confierai mon bateau pour que vous le numérisiez. D'ici là, vous ne saurez pas ce qu'il y a sur mon bateau. Donc je ne sais rien des recherches de M. Gossens, c'est pour ça que je suis ravie de pouvoir lui poser officiellement des questions ce soir. Et donc, le peu qu'on en a parlé, c'est que M. Gossens essaye de modéliser, non pas à la force intellectuelle brute, par exemple, réussir une machine qui réussirait à battre n'importe quel être humain aux échecs, mais au contraire, tout ce qui tient du sens commun et de l'intuition. Voilà. Donc non pas l'intelligence artificielle en ce qu'elle a de faiseuse d'exploits, mais justement en ce qu'elle aurait de quotidien. Et d'ailleurs, je lui ai demandé à M. Gossens, vous arrivez à quelque chose? Et il m'a répondu non. Donc, quel est le lien entre cette activité de BD comique et cette activité de chercheur en intelligence artificielle? Je l'ai cherché, je l'ai trouvé. C'est qu'en fait, le jour où, quand un ordinateur réussira à rire en lisant Gossens le bédéiste, à ce moment-là, on pourrait dire que Gossens le chercheur aura atteint le bout de sa recherche et très exactement son île. Donc maintenant, je vais laisser M. Gossens parler de son île et de son voyage en bateau.
Ouais, alors bon, c'est une métaphore, ça. Le gars qui s'en va en pleine mer, c'est plutôt ça, c'est plutôt un marin. On peut faire de la recherche en faisant du cabotage. C'est une recherche d'ingénieur, c'est très dur. Je suis pas très doué pour la compétition, moi. Et dès le début, je m'étais donné un problème que j'ai conservé maintenant, qui est difficile, c'est celui de la modélisation de la compréhension, mais pas de la compréhension compliquée, de la compréhension de tous les jours, ce que nous, on fait sans réfléchir. Et j'avais commencé par essayer de faire un programme qui comprenait les programmes du premier langage de programmation que j'ai étudié. Je m'étais dit, tiens, j'ai l'impression que je vois à peu près comment je fais. Quand je relis mes programmes, je vais modéliser ça. Donc je suis arrivé à une certaine architecture. Évidemment, ce n'était pas aussi habile et souple que ce que peut faire un simple étudiant en informatique. Mais quand tu disais qu'on n'arrivait à rien, si, on arrive à quelque chose, mais ce n'est pas très visible. C'est un petit peu comme en maths, quelqu'un qui ferait des recherches en algèbre, si on lui demande, alors c'est quoi vos résultats? Ben, en algèbre, c'est difficile à dire, quoi. Donc la métaphore du cabotage, c'est un problème comme la modélisation de la compréhension, ça n'a pas vraiment d'application. Donc moi, tous mes collègues avaient des contrats avec des sociétés et des projets de recherche en université. Et finalement, moi, je rechignais à en faire partie. J'étais obligé de temps à autre. Mais mon plaisir n'était pas là, quoi. Moi, j'avais envie de garder mon sujet. C'est un luxe très, très difficile à conserver, surtout maintenant. Donc, je mesure la chance que j'ai eue. J'ai gardé mon sujet. Je suis plutôt un chercheur de longue haleine, si on peut dire. Et donc, je me suis embarqué en pleine mer. C'est ça, la métaphore. Il y a une autre métaphore qui est encore plus, je dirais, angoissante que celle-là. C'est, on pourrait dire que ce genre de recherche, c'est comme faire de la spéléologie. On descend dans des grottes de plus en plus noires et de plus en plus profondes. Et on ne sait jamais... mais il faut continuer à s'enfoncer. On ne sait jamais si y a l'espoir de quelque chose à l'horizon. Ceci dit, moi, je vois ce que je fais, je vois que je fais des progrès, donc je sais que ça sert à quelque chose, on avance. Par contre, je vais prendre un exemple. Il y a un programme qui s'appelle Watson de la société IBM qui a gagné un concours récemment, en 2012 peut-être, je ne sais plus, 11, 12, un jeu, plutôt un jeu télévisé qui s'appelle Jeopardy. C'est une sorte de... Comment ça s'appelle en France, qui veut gagner des millions, c'est ça? Enfin, c'est pas exactement la même chose, mais ça ressemble. Trivial Pursuit et machin de ce genre, voilà. Et c'est un exploit absolument extraordinaire. Hein. Les simples programmes de reconnaissance vocale comme Siri sur iPhone sont des exploits. Dans les années 90, on n'imaginait pas qu'on arriverait à de tels exploits. Et le programme d'IBM, par exemple, Watson, est basé sur des technologies. Vous pouvez, si ça vous intéresse, ce genre de problème, récupérer toute la doc. Elle est online sur les sites d'IBM. Donc moi, je me suis amusé à regarder et j'ai reconnu des chercheurs des années 80. Donc c'est des technologies des années 80 poussées au maximum de leurs possibilités par les ingénieurs d'IBM. Donc là, il y a des usines de chercheurs-ingénieurs, si on peut dire, qui ont travaillé et qui sont arrivés donc avec des techniques de grammaire à trous, comme ils disent, d'analyse syntaxique particulière et aussi de probabilité pour choisir les réponses à des questions. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce jeu Jeopardy. Il est vachement difficile. Le présentateur pose des questions avec des astuces, des jeux de mots. Et donc, c'est du factuel. Voilà. Le programme Watson est capable de décoder la phrase, la transformer en une structure logique et ensuite se servir d'immenses bases de connaissances que IBM a récoltées d'Internet, comme ça... qui contiennent à peu près tout ce qu'on peut savoir sur, je sais pas, les Jeux Olympiques, les sportifs, les artistes, les écrivains, etc. Ils savent tout sur toi. Et s'il y a une question sur toi, ils sauront dire le titre de ton dernier bouquin, etc. Mais c'est du factuel. Voilà. Il n'y a pas de compréhension. C'est difficile à comprendre, hein, ça, peut-être. Si vous posez une question sur le gars qui a gagné les Jeux Olympiques à la nage en telle année avec une astuce diabolique sans citer son nom, avec les indices qui sont présents dans la phrase, le programme va être capable d'aller se focaliser sur la bonne réponse. Enfin, la plupart du temps, il peut se tromper aussi. C'est hors de notre portée à nous. On ne connaît pas l'entièreté de Wikipédia, par exemple. Donc c'est très très difficile. C'est du même genre que les programmes qui gagnent aux échecs. C'est du même genre que les programmes qui résolvent des théorèmes de mathématiques profonds, qui démontrent le théorème des quatre couleurs en mathématiques, enfin, etc. quoi. C'est très compliqué. Et pourtant, alors à vous de me croire ou pas, moi je vous le dis en tout cas, il n'y a pas de programme informatique capable de se débrouiller comme on le fait nous sur l'évidence. C'est un classique d'ailleurs en intelligence artificielle, hein, c'est-à-dire des questions auxquelles répondrait un enfant de 4 ans. J'ai demandé, par exemple, à mon petit-fils qui a 4 ans, si on met deux boules de billard l'une sur l'autre, qu'est-ce que ça fait? Ça tient, c'est stable? Et il m'a dit tout de suite, ah non, ça tombe. Alors, on peut faire un programme spécial, spécialisé dans la stabilité des assemblages, mais il marchera que là-dessus. On est incapable de faire un programme qui soit capable de déjouer tous les pièges. Vous avez entendu parler du test de Turing, j'imagine. C'est un test qui cherche à départager, à différencier un programme d'un être humain. Vous faites un programme, vous, qui répond à des questions, et il y a un jury qui ne sait pas à qui il parle. Il doit dire s'il parle à une personne ou un ordinateur. Bon, alors, pour l'instant, je crois que personne n'a jamais réussi à faire un programme qui trompe ce jury. Il y a eu quelques phénomènes intéressants, du genre 30% du jury s'est trompé, un truc de genre, quoi, mais jamais quelque chose de complet. Mais c'est un petit peu biaisé parce que le jury n'a pas droit à toutes sortes de questions. Le programme peut répondre n'importe quoi, il peut répondre à côté, des choses absurdes. Il y a de très bons programmes qui simulent des conversations mondaines, hein, dans lesquelles on répond n'importe quoi en reprenant un mot-clé de la question. Et ça donne l'impression qu'on est intelligent. Mais par contre, si vous, je ne sais pas si vous imaginez... toutes ces connaissances évidentes sur le temps, sur l'espace... Du genre, vous savez, vous, par exemple, que si une région de l'espace est contenue dans une autre région de l'espace et qu'une troisième région est disjointe de la région contenante, alors la région qui est à l'intérieur de la région contenante est aussi disjointe de la région numéro 3, j'aurais dû mettre des noms, on s'y serait retrouvé. Des évidences comme ça, on tombe jamais dans ce genre de piège, on n'y réfléchit pas. Voilà. Et bon, donner toutes ces connaissances à un ordinateur, ça semble impossible, parce qu'il y en a trop. Il y a eu des tentatives, hein, pourtant. Il y a des chercheurs américains, dont un qui s'appelle Douglas Lennart, qui a fait une immense base de connaissances qui s'appelle SIC, C-Y-C, vous pouvez la retrouver sur Internet. Il y a un OpenSIC qui est gratuit. Où il a essayé de mettre toutes les connaissances sens commun, pas les mêmes que Watson, mais les connaissances du genre, je sais pas, un corps humain c'est composé de membres, mains, doigts, etc. Enfin voilà. Comment est-ce qu'on arrive à la fin de l'énumération des connaissances qui font que ensuite le programme se débrouille bien? Bah, pour l'instant on ne sait pas. Voilà. On n'a pas dans notre tête une liste de connaissances, mais plutôt une sorte de programme. Tiens, je vais vous le rendre peut-être palpable en continuant cet exemple de la stabilité. Je vous disais tout à l'heure que mon petit-fils de 4 ans sait intuitivement que deux boules l'une sur l'autre, ça ne va pas tenir. Vous pourriez énumérer comme ça énormément de situations. Un cube avec une boule dessus, une boule avec un cube dessus, deux cubes l'un sur l'autre. À chaque nouvelle situation, vous avez une impression. Vous ne raisonnez pas. Vous avez dans votre tête. Les étudiants à qui je proposais ce genre de sujet de programmation me répondaient souvent, c'est parce qu'on l'a déjà vu. On a fait l'expérience quand on jouait avec nos cubes, quand on était petit. Alors c'est sûrement vrai. Mais on ne peut pas imaginer que l'enfant accumule une infinité de situations. Surtout qu'on peut dessiner des objets bizarres, des formes non conventionnelles, et en regardant le dessin, vous aurez une impression de stabilité ou de non-stabilité. Alors, ce qui est très frappant quand on fait ce genre d'expérience, c'est qu'on se rend compte qu'effectivement, il faut avoir expérimenté avec la matière, hein, c'est pas des connaissances innées, mais le cerveau fait un boulot incroyable. Il abstrait, il discrimine, il apprend. Par exemple, si je vous dis deux boules l'une sur l'autre, c'est pas stable. Mais si je vous dis, oui, mais attention, il y en a une qui est rouge, est-ce que c'est stable dans ce cas-là? Ah, vous allez me dire, non, ça n'a rien à voir, la couleur. Oui, il y en a une qui est chaude, est-ce que c'est stable dans ce cas-là? Bah, ça n'a rien à voir, la température. Voilà, le cerveau, il a éliminé énormément d'informations sur la forme, la taille, etc., etc. Et il est arrivé à fabriquer des véritables théories. C'est-à-dire que quand on traite ce genre de problème, on se rend compte que notre intuition, quelque chose qui ne résonne pas, qui ne cherche pas, contient de véritables petites théories, des petites théories qualitatives de la physique, de ce qui se passe sur les objets. Et on ne peut pas le piéger grâce à ça. C'est-à-dire que notre cerveau raisonne comme si c'était formalisé à l'intérieur de notre tête alors qu'on n'a pas fait d'études. C'est-à-dire que vous pouvez très bien ne jamais avoir fréquenté un lycée, une université, quoi que ce soit. Vous avez interagi avec la matière et votre cerveau a formé de véritables théories. Voilà. Voilà ce qui est frappant. Donc, c'est pour ça que c'est inatteignable. On est des virtuoses, des acrobates de la connaissance dans notre compréhension du sens commun. Et ces capacités acrobatiques, personne à l'heure actuelle, c'est pour ça d'ailleurs que ce domaine est si intéressant, je trouve. Personne ne sait comment le modéliser sur ordinateur. Tous les algorithmes de raisonnement qu'on a fabriqués, soit s'enfoncent trop, sont extrêmement puissants, mais s'enfoncent trop. Genre, un programme qui joue aux échecs, évidemment, vous imaginez, les techniques algorithmiques pour jouer aux échecs, c'est grosso modo simulation de partie, hein, avec des astuces diaboliques pour ne pas en faire trop. Mais l'ordinateur, le programme, va simuler toutes les parties d'échecs pour essayer de prévoir tous les dangers possibles et choisir le meilleur coup. D'ailleurs, les programmes de raisonnement qu'on a en intelligence artificielle, pour l'instant, n'ont pas réussi à se départir de cette solution d'essai et d'erreur, c'est-à-dire d'exploration combinatoire, de gigantesques espaces de recherche. On a des astuces diaboliques pour aller vite dans ces explorations, mais on a toujours, on se file à la patte, c'est-à-dire on doute, nous, que notre compréhension fasse ça. Hein, les rapides, hein, vous vous débrouillez bien et vous ne semblez pas chercher. C'est-à-dire il n'y a pas quelque chose en vous qui peut à un moment se mettre à boucler ou exploser combinatoirement. On le saurait. Des gens parmi vous auraient de temps à autre se seraient arrêtés brutalement avec une question de sens commun pour lequel il fallait une exploration qui dure 3 mois. Ça n'arrive jamais, ça. Voilà. On se débrouille bien et on sait s'arrêter quand on sait qu'on n'aura pas la réponse. C'est ça qui est terrifiant dans la compréhension humaine. C'est cette acrobatie à se déplacer dans la connaissance. Est-ce que tu veux poser d'autres questions ou je continue? Parce que je ne veux pas être trop ennuyeux.
Ah non, moi je trouve ça super. Donc je viens d'apprendre que essai erreur s'appelle une exploration combinatoire, c'est ça?
Ouais.
D'accord. Bah, sinon, j'ai pas de questions.
C'est intéressant comme truc, ceci dit, quand vous avez un problème difficile à résoudre, vous voulez le faire résoudre par un ordinateur, quelle est la bonne solution? Ben, on n'a rien trouvé de mieux qu'un truc évident. Je veux dire, une idée que n'importe qui peut avoir, qui a portée de compréhension, justement. C'est l'idée de, on formalise l'univers dans lequel se trouve la solution, on en fait une structure combinatoire dont on peut explorer tous les points, et puis on fait un programme qui va se balader là-dedans, et puis qui va, point par point, évaluer. Est-ce que ça, c'est la solution? Non. Est-ce que ça, c'est la solution? Non. Est-ce que ça, c'est la solution? Etc. Et les astuces, c'est, s'il y a une solution quelque part, est-ce que je peux y aller plus vite qu'en baladant n'importe où avant d'y arriver, quoi. Est-ce que je peux y arriver le plus directement possible? C'est pas très. Je doute que notre compréhension fonctionne comme ça.
Oui, parce qu'il y avait toute une discussion sur le Human Brain Project ce matin et qui parle. Où est-ce que j'ai mis? Oui. Elle parle directement de ça, hein, que c'était une neurologue qui parlait des enfants autistes et ils disent que le problème, c'est qu'ils reçoivent trop de stimuli et qu'ils n'arrivent pas à les élaguer, et qu'une des choses les plus importantes dans notre compréhension, c'est déjà d'élaguer un maximum de choses, et ça rejoint effectivement notre capacité, celle dont tu parles, qu'à notre intuition à élaguer toutes les hypothèses qui paraissent absurdes. Donc les grands esprits se rencontrent. Ce que je voulais te demander, c'est concrètement, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu, tu es face à un ordinateur, un papier?
Ouais. En fait,
ou collègues ou...
On peut pas faire grand chose. Alors quand je travaillais à l'université, j'avais des collègues, mais finalement, on était une équipe, mais chacun travaillait un petit peu sur sa partie. Mmh. Quelquefois, quand il y avait un contrat, quelques-uns se regroupaient. Maintenant, ça ne se fait plus que comme ça. Mais avant, ce n'était pas tout le temps comme ça. Donc, à l'époque, de temps à autre, certains se réunissaient pour travailler sur un contrat à plusieurs. Donc, moi, en recherche, on ne peut pas faire grand-chose d'autre que produire un modèle et l'affiner. Donc, je fais ça depuis mes débuts. Je ne suis pas un mercenaire, c'est-à-dire il y en a qui participent à des équipes de recherche en passant d'un modèle à l'autre et qui offrent le service, parce qu'ils sont très très doués, donc ils peuvent se permettre d'aller faire avancer des projets extrêmement différents. Moi, mon talent, c'est plutôt un talent, comme je disais, de longue haleine, de fond de cours. Donc je suis sur le même problème depuis, et je suis content d'être sur le même problème. J'avance très lentement, mais j'avance quand même. Et donc, j'ai une architecture, des structures de données, une façon de représenter les connaissances, une algorithmique, donc un ensemble de programmes. Il y a à la fois des maths et de l'algorithmique, en fait. Il y a des solutions algébriques pour résoudre des équations, pour maintenir la connaissance dans un état qui permette justement, j'espère toujours ça, que les programmes soient de plus en plus, pas acrobates comme nous, évidemment, mais au moins... de plus en plus habile, ne pas louper des inférences quand elles sont évidentes. Oui, j'avais pas terminé ça tout à l'heure, je voulais dire, le dilemme est le suivant tout le temps, c'est soit on fait un programme extrêmement calé, qui ne manque aucune inférence, et donc qui va répondre presque à toutes les questions, et à ce moment-là, on peut le piéger, c'est-à-dire on peut l'envoyer dans un espace combinatoire trop grand pour lui et qui va mettre des siècles à explorer, il ne s'en rendra pas compte. Une petite anecdote en passant, il y a un courant de l'intelligence artificielle qui travaille sur ce qu'on appelle le raisonnement logique de boule. Ça s'appelle le SAT solving. Vous avez tout ce que vous pouvez coder en algèbre de boule, c'est un langage de très très bas niveau, très pauvre. Mais si vous arrivez à représenter des connaissances dans ce langage-là, alors vous pouvez télécharger un programme gratuit qui fait du raisonnement automatique, qui s'appelle un SAT solver donc. Et comment il marche? Lui aussi ne peut pas se départir de ce problème. En algèbre de boules, il y a des carrefours, on appelle ça des variables, sur lesquels il faut choisir entre deux possibilités. Alors, s'il y a 50 carrefours à choisir, le programme va essayer une des deux possibilités pour le premier. Puis pour cette possibilité-là, il passe à la deuxième, il refait la même chose. Donc, c'est exponentiel. C'est le nombre de cas possibles, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, autant de fois qu'il y a de variables. C'est gigantesque. Les gens qui ont fait ces algorithmes de raisonnement ont trouvé des astuces diaboliques pour que la représentation que vous fournissez de votre problème indique un petit peu quel chemin prendre pour arriver le plus vite possible à une solution. Et malgré tous ces efforts, on peut piéger ces programmes avec des situations extrêmement simples. Exemple de problème, ça s'appelle le problème des pigeons en intelligence artificielle, mais je trouve que c'est plus facile à voir avec des coquetiers. Vous prenez 9 coquetiers et 10 œufs. Et le problème, c'est de mettre un œuf par coquetier. En algèbre de boules, vous ne pouvez pas représenter les nombres. Vous êtes obligé de tout instancier avec des variables, des quantificateurs. Vous connaissez l'algèbre de boules, c'est le et, ou, implique, équivalent. Vous avez fait peut-être un petit peu de maths, vous connaissez peut-être ce genre de choses. Langage très pauvre, donc. Et l'algorithme, pour résoudre ce problème-là, il n'y a pas de raccourci. Voilà, c'est un problème qui a une structure telle qu'il n'y a pas de raccourci. Alors, il va essayer. Il met l'œuf numéro 1 dans le coquetier numéro 1, l'œuf numéro 2 dans le coquetier numéro 2, jusqu'à arriver à l'œuf numéro 9 dans le coquetier numéro 9. Et puis, il a l'œuf numéro 10 qu'il peut mettre nulle part. Normalement, nous, on se dit, allez, on arrête. Enfin, on aurait arrêté bien avant. On est acrobate et on se dit, c'est pas la peine, il n'y a pas de solution. Alors que l'ordinateur ne va pas faire ça, lui. Il va enlever l'œuf numéro 9 du coquetier numéro 9 et il va mettre le numéro 10 dans le coquetier numéro 9. Puis il lui reste l'œuf numéro 9. Et puis il va dire, je vais recommencer, je vais enlever le 10 et puis le celui d'avant, le 8. Puis je vais mettre le 9 dans le 8 et puis le 10. Puis il va essayer toutes les combinaisons. Donc s'il y a 9 coquetiers et 10 œufs, ça va se faire rapidement. Mais il va échouer à toute petite taille. Hein. Dès 15 coquetiers, 16 œufs, n'importe quel ordinateur actuel est perdu, ne peut plus. Si vous comptez la combinatoire, vous verrez que ça fait un temps de calcul trop énorme. Alors, il y a des workarounds, comme on dit. Il y a des gens qui travaillent sur la symétrie. On voit bien que c'est un problème de symétrie. Donc, il y a des gens qui disent on va coder la symétrie ou bien on va faire un problème qui analyse la symétrie du problème. Mais analyser la symétrie, c'est aussi un problème difficile. C'est-à-dire, les gens qui travaillent sur une théorie qui s'appelle la théorie de la complexité savent qu'on n'a pas de solution générale, etc. Donc, il y a plein de workarounds, mais ce n'est pas accessible non plus aux solutions type réseau de neurones ou programmation génétique. Il y a plein de courants en intelligence artificielle. Réseau de neurones ne peut rien faire là-dedans parce que c'est combinatoire, ce genre de choses.
Oui, alors justement, est-ce que tu pourrais nous brosser très rapidement, pour nous néophytes que nous sommes presque tous, un tableau de la recherche en intelligence artificielle avec ses différentes branches, parce que depuis ce matin, je rame un peu pour comprendre. Je sais qu'il y a les neurologues, je sais qu'il y a les calculeurs, je sais qu'il y a les intelligences artificielles, enfin, je me perds un peu.
Alors bon, y a le connexionnisme, c'est les réseaux de neurones. Là aussi, il y a des mystères toujours pas... On a un modèle très simple du réseau de neurones qui date des années 40. Je ne sais plus comment ça s'appelait, les chercheurs américains qui avaient Hebbs et je ne sais plus qui. Qui ont été repris ensuite, qui ont repris dans les années 80. Connexionnisme, donc. Avec ça, on fait des sortes de radars, mais on ne peut pas faire de raisonnement. On fait des programmes très, très impressionnants, quand même. C'est un domaine qui a produit des résultats étonnants. Il y a la programmation génétique. Alors c'est pareil, c'est une imitation de la nature. Programmation génétique, c'est la façon dont la nature cherche avec nous. On se reproduit. On se reproduit en donnant chacun des deux parents la moitié de son patrimoine génétique à sa descendance. Et il y a une loi impitoyable qui sélectionne les plus adaptés. Enfin, oui, ce genre de choses, quoi. Donc, on simule ça sur ordinateur. Quand on ne sait pas très bien les programmes qu'on voudrait écrire pour résoudre un problème, on simule un univers impitoyable. On écrit un programme qui génère des programmes, comme si c'était des animaux. Et ces programmes générés, en fait, sont décrits par une chaîne de bits 0 et 1 qui sert, en fait, de génome. Et on simule le crossover, la reproduction génétique, c'est-à-dire on sélectionne, on simule l'univers en question, on éradique ceux qui n'étaient pas adaptés, on prend ceux qui ont résisté, on les fait se reproduire, donc on génère de nouveaux programmes qui chacun ont la moitié du code génétique d'un des parents. Ça fait un autre programme. Et on lance cette simulation sur autant de cycles que nécessaire en espérant arriver à un moment à voir naître des programmes adaptés à la tâche qu'on veut résoudre. Alors là, je conseille un petit film fait par un Américain qui s'appelle Carl Sims. Vous pouvez trouver ça sur Internet. Vous tapez Carl Sims, S-I-M-S. Où on voit des créatures en 3D qui nagent, qui marchent, qui se battent, qui sont saisissantes. Elles sont en fait fabriquées de cubes interconnectés par des oscillateurs artificiels, quoi. C'est-à-dire les cubes sont comme attachés les uns aux autres, avec des formes quelconques. Chaque individu est décrit par une sorte de génome. Et donc, le programme de Carl Sims génère au début tous les animaux possibles, aléatoirement, et puis il les simule. Par exemple, si c'est dans l'eau, bah, il va utiliser comme fonction d'évaluation le fait qu'ils avancent ou pas. Il va sélectionner les organismes créés qui avancent le plus vite, et il les fait se reproduire entre eux. Et à la fin, ce qui est sidérant, c'est qu'on obtient... les algorithmes, les organismes qui survivent, si je puis dire, sont symétriques, et nagent comme des poissons, par exemple. Ils oscillent comme ça, effectivement. C'est très, très étonnant de voir que ça ressemble autant à la réalité. Bon, c'est un monde très simplifié, hein, parce qu'on nage et on marche, c'est tout, pas plus. Mais quand même.
Et ça se voit où, ça ?
Eh ben, sur Internet, il suffit de taper Carl Sims. K-A-R-L-S-I-M-S.
Oui, ça, j'avais... Est-ce que toi, tu as entendu parler...
À part ça, il y a la robotique, il y a la domotique. Enfin, l'intelligence artificielle est partout, donc c'est difficile d'en faire un...
Mais il y a quelque chose d'assez étonnant, en fait, d'imaginer des programmes informatiques qui couchent ensemble pour faire tout un tas de petits programmes. Et j'ai entendu parler, effectivement, ce matin, d'un virus. Donc, c'est le virus de la mort, puisque ça se met sur d'énormes infrastructures informatiques. Et ça commande aux ventilateurs de se mettre à tourner comme une brute. Et du coup, ils crament. Et du coup, la machine crame. Et ça détruit des infrastructures qui ne sont pas du nougat. Et effectivement, le virus qui a réussi à avoir ce résultat, est un virus qui apprenait d'autres virus, il y avait comme ça aussi, des relations quasiment sexuelles au niveau viral informatique, ce que je trouve tout à fait étonnant. Donc, je voulais te poser la question, mais tu as répondu, du travail en équipe. Est-ce qu'il y a parmi tes équipiers, enfin, bien-aimé chérie et néanmoins concurrent, est-ce que tu penses qu'il y en a d'autres qui, sur la même voie, sont plus loin, moins loin ? Franchement fourvoyé ou que donc tu aimerais rejoindre l'équipe car elle est vraiment en train d'aboutir à quelque chose que tu as longtemps cherché.
Bah, hélas non. À partir des années 2000, il y a une sorte de pression sur l'université, sur la recherche et tous les gens que j'ai. Bah, je parlais de Watson et du programme Watson chez IBM. J'ai été étonné de voir que c'était des survivants des années 80 et en fait donc comme je disais poussaient à leurs limites des technologies des années 80 et maintenant la recherche est plus comment dire adulte, sérieuse ou je sais pas quoi, moins ludique en tout cas et à plus court terme voilà. À Paris 8 où j'étais jusqu'à assez récemment Bon, bah, il y a des années, on ne recrutait que des thésards sur des projets financés, annaires, à plus ou moins court terme, quoi. Mais on n'accepte plus des gens qui, comme moi, viendraient dire « j'ai la passion de ceci, je veux m'enfoncer à fond là-dedans et puis je vais jusqu'au bout ».
Et maintenant, pour faire...
Attends, je voulais dire, justement, c'était sur la compréhension même. Bah, c'est triste à dire, il n'y a pas grand monde. Probablement que les laboratoires pensent que ce sujet est inatteignable. Mais pour moi, ce n'est pas un critère. Tu vois, c'est comme l'algèbre. L'algèbre ne va pas aboutir à quoi que ce soit. Mais c'est intéressant de conserver. Il faut conserver ces travaux de fond. Parce qu'on ne pourra pas en obtenir les résultats par des recherches à court terme. C'est effectivement, il ne faut pas que ces travaux de fond fassent l'essentiel de la recherche. Il faut que ça consomme le moins de ressources possible. Mais c'est comme les maths. Voilà, c'est comme les maths ou l'algèbre. C'est forcément des choses de longue haleine. Et ça progresse. Ça progresse de façon nette et certaine. Mais il n'y a pas de communauté. Voilà, il y a des gens probablement isolés, qui se connaissent peu, qui téléchargent les PDF. Moi, j'ai publié des papiers à droite à gauche. Je vois qu'ils sont téléchargés. C'est encore un domaine où il faut payer pour être publié, ou en tout cas c'est gratuit, quoi. Hein. Si vous voulez être lu, il faut laisser vos articles en accès libre.
Et il y a une définition nette et précise de ton domaine de recherche, un titre que tu pourrais nous donner?
Alors, c'est donc de l'intelligence artificielle. Il y en a un qui est proche, c'est donc le sens commun, common sense, mais pareil, ça s'est démodé. Common sense, c'était l'étiquette pour les recherches en langage naturel qui s'intéressaient aux questions-réponses que n'importe qui peut pratiquer sans avoir fait d'études, quoi.
D'accord.
Alors, common sense, et sinon, voyons voir, j'essaye de réfléchir. J'utilise des outils, moi. J'utilise le fameux set-solving là, dont je parlais. Donc ça, c'est du raisonnement. Voilà. Le raisonnement artificiel, oui, c'est un domaine toujours à l'avant-plan.
Alors, je suis très étonnée parce que pour moi, réussir à ce que quelque chose d'artificiel ait les mêmes performances cognitives que l'être humain, pour moi, c'est au contraire une voie qui est actuellement extrêmement explorée. Et j'apprends que, eh bien non, pas du tout.
Bah, par exemple, il n'y a pas beaucoup de systèmes questions-réponses online sur Internet. Il y en a un au MIT qui s'appelle START. Si on lui pose la question, il n'est pas fait pour ça. Il est fait un petit peu comme Watson pour répondre à des questions factuelles. Mais essayez d'imaginer. Moi, j'avais posé des questions farfelues en sachant qu'il n'était pas fait pour ça, qu'il n'allait pas y répondre. D'habitude, quand il ne sait pas, il répond « on ne m'a pas dit que, je ne sais pas que », etc. Et là, brutalement, sur une question farfelue qui était « quelle est la taille d'un carré ?»« Quelle est la taille d'un carré ?» Vous savez répondre. Je suis sûr que vous avez une réponse. « Quelle est la taille d'un carré ?» Il avait répondu en anglais, donc « what is the size of a square ?» Il a répondu « length, 60-35 ». Donc, ça veut dire « longueur, 60-35 ». Donc, ça m'avait étonné. Je lui dis « tiens, comment il a trouvé ?» Donc, heureusement, ce système laisse ses liens. Donc, j'avais suivi le lien et j'étais tombé sur l'article Wikipédia dont il s'était servi. Il était passé par la figure géométrique, the square. Il n'avait pas trouvé de taille. Et pour cause, hein, quelle est la taille d'un carré? Vous savez, vous allez répondre forcément, vous, bah, un carré, c'est une figure abstraite, ça n'a pas de taille. Enfin, bref, tout le monde sait ça. Mais le programme, lui, il ne sait pas ça. Il n'a pas ce genre d'intuition. Donc, il avait suivi tous les articles sur carré, square. Il n'avait pas trouvé de taille jusqu'à tomber sur un album de musique qui s'appelait Square, The, entre parenthèses, The Square, sur lequel il y avait marqué durée, en anglais c'est length, 60-35. Donc, ça a coïncidé avec son réseau sémantique. Hein, longueur, taille, largeur, tout ça va bien. Mais il n'y a pas de conscience. Alors ça, c'est intéressant. Regardez, je vais vous faire un petit truc sur la conscience. Pour vous voyez à quel point l'ordinateur est loin d'avoir ce genre de conscience. Je parle de la conscience. Bon, il y a des gens pour qui la conscience, c'est un truc métaphysique. Je ne parle pas de ça. Pour les chercheurs en intelligence artificielle, la conscience, c'est le résultat d'une interconnexion de connaissances et un fonctionnement. Voilà, cette conscience-là. J'ai un copain, Vincent Audiquet, qui est un humoriste absurde de Fil d'Acial, qui me racontait un de ses rêves récemment, On parlait de ça, ce sujet, et il trouvait que ça l'illustrait bien, et moi je trouve aussi. Il me disait, voilà, je voulais prendre le métro dans mon rêve, et puis je me rendais compte que je n'avais pas de timbre. Donc, ben, je vais à la poste. Oh, pas de pot, la poste est fermée. Et etc. Comme dans tous les rêves, il passe d'obstacle en obstacle, comme ça. Il veut prendre le métro, mais il n'a pas de timbre, et il va se balader d'obstacle en obstacle. Et quand il se réveille, d'un coup, il se rend compte que bah, il n'a pas besoin de timbre pour prendre le métro. Il s'est rendu compte de ça. D'un coup, en se réveillant, voilà, c'est quand on accède à la conscience, qu'est-ce qui se passe quand on rêve, disons, on est quelqu'un, on vit une aventure, on est dans un monde délirant, certes, mais on est dans un monde. On dirait qu'au mieux, nos programmes informatiques, ils délirent, ils rêvent. Mais ils ne sont pas capables d'accéder, d'avoir ce petit sursaut de quand on se réveille. Ce n'est pas grand-chose pourtant, hein, parce qu'on ne pense pas plus. Mais j'ai l'impression qu'on sous-estime ce qu'il y a derrière. Ce réveil qui fait qu'on se dit « Ouf, tout va bien, je suis moi », etc. On sait quand on est, qui on est, où on est, à quoi on sert, qu'est-ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on a fait un peu de temps auparavant. Voilà, on a une sorte d'univers mental, spirituel, psychique, dans lequel vraiment on est totalement à l'aise. On est comme dans son salon. Alors que quand on rêve, rien n'est clair. N'importe quoi peut arriver. C'est pas connecté bien comme il faudrait. Dans le rêve de Hodiquet, c'est vrai qu'il y a une analogie, un timbre, un poste et un ticket de métro. Bah pourquoi pas, ouais, c'est deux rectangles, c'est des trucs qui servent à je sais pas quoi. Et il n'a pas la conscience suffisante pour arriver à se dire bah oui, y a une absurdité là-dedans. On peut effectivement, il y a des maladies, hélas, qui font qu'on peut être condamné à rêver. Hein, la maladie de Alzheimer, par exemple. J'ai connu des gens qui avaient Alzheimer et on sombre petit à petit comme ça dans un état avec moins de conscience, un rêve perpétuel. Donc, c'est pas donné la conscience, c'est pas un attribut shakespearien, être ou ne pas être. C'est vraiment un mécanisme terrifiant d'efficacité et un mystère insondable.
C'est beau.
Ah ouais, c'est du lyrisme.
C'est très
bouffon.
Maintenant, on va essayer de faire un pont avec la BD. J'aimerais savoir si ton travail de chercheur nourrit ton travail de BDiste. Là, comme ça, je vois pas, mais sûrement.
Il y a un premier pont, c'est dans les questions absurdes dont je parlais, là, on pourrait aligner une infinité hein, de petites situations de sens commun propres à tromper n'importe quel programme d'ordinateur. Et exemple, dans un sketch de Coluche, où il y a un jeu simulé, il y a la question « Quel âge avait Rimbaud ?» Voilà, quelqu'un, enfin, on demande « Quel âge avait Rimbaud ?» Cette question-là, on voit tout de suite, nous. D'ailleurs, dans un sketch de Coluche, c'est fait pour rigoler, on est censé rigoler tout de suite. On entend « Quel âge avait Rimbaud ?» Ça nous fait rire. On a l'impression de ne pas avoir raisonné. C'est quand même magique comme truc. Alors qu'un ordinateur est à 100 lieues de rire de ça. Quel âge avait Rimbaud ? Qu'est-ce qu'il va faire de cette question ? Je sais pas trop rien. Peut-être que les slot grammars de Watson vont dire qu'il manque un truc. Quel âge avait Rimbaud ? Ou peut-être qu'il répondra carrément. Je ne sais pas quoi il va trouver quelque part dans ses bases de connaissances. À un moment où Rimbaud avait un âge, il va sortir cet âge-là, par exemple sa mort.
Ou 17 ans, oui.
Ou 17 ans, voilà, oui. Et donc, quel âge avait Rimbaud, ça se rapproche de l'humour absurde. Et ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, l'humour absurde, c'est inaccessible. Oui, c'est dans la lignée du sens commun. Le comique, ça s'adresse à cette compréhension de très bas niveau, sens commun. On n'est pas censé avoir fait des études. Le gag doit être direct. Et ça dit quelque chose sur le fonctionnement social. Ou spirituel, ou etc. etc. Je vais prendre un exemple. J'ai fait un album qui s'appelle Sacré Comique et qui donc s'intéresse à la religion. Alors on me disait souvent pourquoi la religion, ça a déjà été fait, pourquoi refaire encore un truc ? Est-ce que à notre époque où c'est plus dangereux du tout, il n'y a plus de tabou, à quoi bon ? Et en fait, c'est pas tellement le problème. On peut faire de la dérision sur la religion de plein de points de vue différents. Vous pouvez, par exemple, prendre comme cible la pudibonderie de la religion, comment dire, sa hantise du sexe, etc. Et donc, vous allez faire des gags qui exagèrent des situations graveleuses, etc. Vous pouvez prendre la cruauté de la religion, le fait que la religion a semé la violence, les guerres de religion, le sang, etc. Et puis, vous allez faire des dessins satiriques, profonds, des coups de poing, etc. etc. Bon, j'aurais pu faire tous ces machins-là. Moi, j'ai choisi autre chose. Je me suis rendu compte après coup, parce qu'en général, on le fait justement avec cette fameuse intuition au départ. Je me suis rendu compte que le point commun de toutes les situations que je tournais en dérision dans Sacré Comique, c'était l'ambition spirituelle. Et je voulais vraiment avoir ça comme cible. Si je fais un truc trop graveleux ou trop saignant ou trop coup de poing, je vais manquer la cible. Je vais aller trop profond, trop loin. Moi, je veux être sur cette petite frange-là. Et donc, eh ben, effectivement, je me rappelle plus bien de tout ce qu'il y a dans Sacré Comique, mais par exemple, au début, je me pose le problème du fait que il peut pas y avoir deux Moïse. Il y a un seul Moïse. Alors, j'imagine une scène où il y a deux Moïse. Il y en a un qui descend aussi du Sinaï avec ses tables de la loi à lui, puis qui rencontre l'autre. Salut, collègue, le Seigneur t'a fait le coup à toi aussi, etc. Et donc, il n'y a pas de saignant là-dedans, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de truc de genre. Hein. Ça dit, ça parle d'un aspect de la religion précis, particulier. Il y en a un autre, c'est après la crucifixion de Jésus, il y a un livre d'or où les gens. Comment ça s'appelle ? Les citations en exergue dans les bouquins, très lyriques. Ou les citations qu'on met dans le livre d'or, les mots d'adieu pour les grands anciens, etc., ont un défaut commun, c'est qu'elles semblent, peut-être que ce n'est pas l'intention, notre intention à nous quand on les fait, mais elles semblent vouloir trancher définitivement, faire une sorte de conclusion de l'univers presque. Hein. Elles ont une ambition démesurée, démente, une ambition spirituelle. Et donc je me rends compte, je suis attiré par ça. Voilà, à chaque fois que j'ai une cible de ce genre, ça m'excite. Donc je me suis amusé à faire plein de... Ça m'a étonné ça aussi, en faisant les épitaphes du livre d'or sur Jésus. Je me suis documenté, hein, je me documente tout le temps. Donc j'ai regardé les épitaphes des morts précédents, des grands de la chanson qui sont partis, etc. quoi. J'ai vu un petit peu, grosso modo, ce qu'on met. Et on règle presque tous les problèmes de l'humanité, la télépoubelle... C'était lui le plus grand à méditer maintenant de nos jours, etc. quoi. Enfin, vous voyez le genre de pensée. Et ben, ce qui m'a étonné, c'était que des choses qui sont absolument pas drôles du tout pour le plus grand des acteurs, le plus grand des peintres, le plus grand des artistes faisaient rire. Enfin bon, j'ai la prétention, tant pis. Quand c'était avec Jésus. Avec Jésus, ça va pas. Voilà. Y a un contraste étonnant. Et alors, ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire que même si on n'est pas croyant, c'est mon cas, je ne suis pas croyant, même si on n'est pas croyant, on a modélisé à notre insu la figure de Jésus comme d'une prétention et d'une ambition spirituelle inouïe, quoi. Rien ne doit pouvoir être comparé. C'est d'ailleurs l'ambition des religions en général, hein, c'est de ne pas être relativisé, pas être comparé, être divinisé, être transcendant, etc., quoi. Et même si vous ne voulez pas diviniser Jésus, votre cerveau l'a fait, c'est-à-dire votre inconscient l'a modélisé comme tel. Et donc du coup, même si vous ne rigolez pas, vous allez voir en tout cas qu'il y a quelque chose d'incongru. Donc pour moi, l'humour dit ça. Il dit des choses qui se sont passées dans nos esprits, dues au fonctionnement social. On vit en société, on modélise à notre insu les choses. On hiérarchise les symboles sociaux. Ils ont plus ou moins de valeur. On est d'accord ou pas d'accord. Peu importe, ça se hiérarchise comme c'est dans la société. Ça nous met en colère si on n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, on va aimer consommer de la dérision sur le sujet. Ou au contraire, quand ça nous convient, on est content, on est très très heureux que telle chose soit divinisée par la société ou telle autre soit diabolisée. Et à ce moment-là, on va détester la dérision qui... qui se met en contre-pied de ce qu'on ressent. Voilà, je vois ça comme ça. Donc ça veut dire aussi, en passant, qu'il n'y a pas une dérision, il n'y a pas un humour, il y en a une infinité en fonction des modèles, des compréhensions qu'on a du fonctionnement social.
D'accord, mais c'est quand même bien basé sur le fait que tu nous vois comme des petits tas de modélisation, en fait. Tout nous...
Ah bah, je vous vois, je nous vois.
Non, mais c'est...
Tu sais, moi, c'est mon hypothèse.
Je trouve ça super intelligent, moi.
Ah ouais, ouais. Attention.
J'ai pas capté.
De toute façon, il ne faut pas avoir la grosse tête. Tous ces machins-là, c'est les constructions hypothétiques. En sciences humaines, les théories, elles valent pour leur arrimage, hein, pour leur connexion. Il n'y aura jamais de preuve. Il n'y a pas de... On peut tenter des fois des... Comment ça s'appelle, les formalisations, mais ça fait toujours un peu snob, ça sert à rien. Et on ne peut pas trancher avec le réel. Vous prenez la théorie de Freud, par exemple. Personne n'a jamais réussi à trancher ça avec un phénomène dans le réel, quels que soient ses topics, le moi, le sale sur moi, etc. C'est des poignées commodes. C'est bien, c'est vachement intéressant, c'est commode. C'est ça la valeur des théories de sciences humaines. Donc tout ce qu'on peut avoir comme idée sur le fonctionnement de l'humour, du comique, le lien avec la science, bah, c'est des constructions, c'est des assemblages. Ça ne veut pas dire que c'est inutile. Au contraire, je trouve. On ne peut faire que ça. Enfin, y a rien d'autre qui existe en sciences humaines. Il faut les arrimer. Voilà. Et ça a la valeur des connexions intellectuelles qu'on a pu faire avec des tas d'autres domaines, des tas de faits, etc.
Bon, bah, écoutez, j'avais encore énormément de questions, notamment sur Tokyo. Malheureusement, je crains que le temps qui nous est imparti soit fini. J'espère que ça vous a autant intéressé que moi. Je vous remercie d'être venu. Merci à Monsieur Gossens. Et n'hésitez
pas.
Merci.
Je vous applaudis.